Jeu de son. Un son. Des sons. Mais quels sont ?
Cette émission vous est proposée par Micheline Planès.
Bonjour chers auditeurs, je suis très contente de vous retrouver après un long et regrettable arrêt. On va continuer notre balade dans le monde sonore. Et aujourd'hui, je vous emmène à découvrir un événement exceptionnel, une petite suite de perles sonores extraordinaires qui va se dérouler très prochainement et pas loin d'ici. Je ne serai pas seule pour vous présenter cela. Mais en attendant, je vous demande d'écouter avec attention 2 minutes de musique. On dira après pourquoi on les passe. Vous avez entendu une voix qui a une sonorité absolument confondante. Cette voix nous remue profondément. Eh bien, cette voix, vous allez pouvoir l'entendre résonner dans la montagne. Mais quand et où? C'est une personne qui est devant moi qui va vous dire où vous pourrez l'entendre. Et quand et pourquoi surtout vous pourrez l'entendre. La personne que j'ai devant moi est une pianiste, concertiste, pédagogue, qui s'appelle Nicole Simon-Laroche. Et elle dirige depuis 12 ans un festival dans notre région, dans la Haute-Savoie, à Saint-Nicolas-de-Véros. Ce festival s'intitule « Rencontre, musique et patrimoine dans le pays du Mont-Blanc ». Je vais vous lui demander, bien sûr, Nicole, de nous présenter cela et surtout ce qu'il a d'exceptionnel.
Bonjour Micheline, ravie d'être avec vous et parmi les auditeurs. Alors quand ce festival a lieu du 3 au 7 août, donc dans ce petit village de Saint-Nicolas-de-Véros qui fait partie de la commune de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Pourquoi ? Parce que j'ai des attaches, moi, affectives, on va dire, dans ce petit village où j'ai passé depuis l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, toutes mes vacances. Et c'était pour moi magique parce que, à force de faire du piano à l'âge de 10 ans, je n'avais pas de piano à Saint-Nicolas-de-Véros et je pouvais aller garder les vaches, faire les foins, aller me balader en montagne. Et donc, je suis extrêmement attachée à ce petit village et avec ma carrière ensuite, je me suis dit, eh bien, on va rendre hommage à Saint-Nicolas-de-Véros et on va monter ce festival entre mes très chers amis musiciens qui sont dans la région parisienne et mes amis aussi du village de Saint-Nicolas-de-Véros.
Et alors, qu'est-ce qu'il a d'original, votre festival ? Parce que quand je parcours le programme, par exemple, et certains programmes depuis 12 ans, il y a quand même une caractéristique particulière.
C'est un festival du village, c'est-à-dire que tous mes amis d'enfance hébergent, reçoivent les musiciens, accueillent remarquablement bien. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai l'identique sur Paris, c'est-à-dire que mes amis musiciens sont des, on va dire, des humainement, sont des gens non seulement qui jouent extrêmement bien, mais qui sont aussi adeptes de ce projet qu'on a, qui est en fait une rencontre vraiment qui se doit chaleureuse, accueillante et sans prétention. Et vous savez, un musicien, c'est pas grand-chose. On fait une transmission, mais on est quelque part des artisans, on est des ouvriers. Il n'y a pas lieu d'en faire toute une histoire. On est là, humainement, dans ce village. On est avec le public et il n'y a pas de prétention aucune.
Je crois que c'est pour ça qu'on vous reçoit, dans cet esprit-là. Parce que nous aussi, on est tout à fait adeptes de cette philosophie de la musique, si on peut dire, très proche de l'humain. On a senti que votre motivation était surtout portée là-dessus. Vous avez toujours eu un penchant pour la transmission, bien sûr, mais la transmission aussi de quelque chose de très humain. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que vous avez eu aussi un diplôme de médecine des arts, c'est-à-dire de savoir comment la musique et les autres arts, bien sûr, peuvent participer à l'édification d'une personnalité.
Avec l'époque qu'on vit actuellement, où il faut aller vite, fort et performant, la machine humaine, elle se détraque forcément, obligatoirement, et quand il s'agit des ados ou des jeunes musiciens professionnels, s'ils n'ont pas une compensation sportive, une vie d'hygiène extraordinaire, il arrive des pathologies terribles. Et donc, j'avais beaucoup d'étudiants qui, en passant par les grandes écoles, ont eu des problèmes. Et du coup, je me suis penchée sur la question. Et ça m'a complètement révélé qu'un pianiste, c'est aussi une machine humaine qui a besoin de vivre pas que de la tête et des doigts, mais aussi dans son corps.
Et vivre des sentiments et des situations diverses et importantes qui vont retransmettre dans la musique, bien sûr. Je vois dans votre programme aussi que c'est vraiment très singulier. Vous avez aussi des randonnées musicales, des botaniques. Alors,
si vous voulez, moi, j'ai quand même un caractère un peu particulier. C'est-à-dire que je ne fais pas la musique d'un côté, la montagne de l'autre. Je pense que la nature, le patrimoine architectural et la musique, tout ça, on l'a bien vu dans le confinement, excusez-moi, mais on a quand même vu les animaux revenir, il y avait moins de bruit. Ça nous a porté à des réflexions assez impressionnantes sur notre vie, sur nos vies. Cette singularité qu'on peut avoir à Saint-Nicolas-de-Véros, c'est aussi grâce à tous ces bénévoles, mais aussi grâce à la situation géographique, grâce à nos ancêtres, les colporteurs de Saint-Nicolas-de-Véros, qui ont fait fortune en allant dans les Allemagnes au XVIIIe siècle et qui sont revenus et qui ont offert, puisque de ce temps on gagnait son paradis, en offrant des dons à l'Église. On a eu du coup une église baroque classée monument historique et un musée d'art sacré qui sont absolument exceptionnels. Tout ça dans un petit village de 300 habitants, vous voyez. Je me suis dit que rendre hommage à cette magnifique église pour donner des concerts, et ensuite avoir ce potentiel de nature où nous, on peut aller grimper, faire des randonnées. Alors on peut faire des randonnées botaniques, parce qu'il y a beaucoup d'herbes et de choses absolument magnifiques. Et puis des refuges de partout, où on peut, en emmenant les gens, aller écouter de la musique en altitude, face au Mont Blanc, ce qui est quand même un spectacle qui vaut largement beaucoup plus que les grandes scènes et qui donne des émotions, d'autant plus que là, on allie vraiment les deux, c'est-à-dire la merveille de la nature et la merveille de la musique.
Mais je crois que c'est vraiment, vraiment très passionnant tout ce que vous dites et on est tout à fait d'accord. Maintenant, on va quand même en revenir au programme de votre festival pour cette année, du moins. Nous avons entendu une chanteuse extraordinaire, mais il n'y aura pas toujours de la musique aussi grave. Qu'est-ce que c'était, ce qu'on a entendu d'ailleurs ?
Alors, c'était le Kaddish de Ravel, mais qu'on est habitué, nous, musiciens classiques, à entendre avec des voix lyriques, hommes ou femmes, peu importe. Ma rencontre avec Annie Darmon m'a complètement déchirée quand j'ai entendu ce Kaddish de Ravel avec une voix des tripes, et on n'est pas du tout habitué à entendre ça. Et ensuite, elle part sur un répertoire d'Europe centrale, de séfarades, de chants séfarades, et c'est, donc on va avoir ça en pleine montagne, vous voyez, face au Mont Blanc, donc c'est génial. Et moi, je voudrais juste rebondir un petit peu sur le choix du programme que je fais volontairement. Je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaise musique, qu'il n'y a que de la mauvaise musique mal jouée. Ça peut être du rap, ça peut être n'importe quoi. Ce doit être beau et bien fait. Quand c'est bien fait, on peut tout entendre. Si vous voulez que j'aime, c'est de passer du hyper classique à, pourquoi pas, du jazz, à justement ce chant séfarade, pour revenir au classique. Et je pense que sur la semaine, il est vraiment passionnant pour les gens qui viennent une semaine, et on en a, qui viennent de Paris. C'est très varié, c'est une semaine festive, très riche.
Si vous le voulez bien, pour les détails pratiques, évidemment, on va les rappeler très très précisément à la fin de notre émission. Là, on va voir justement dans le déroulement, vous avez dit tout à l'heure, on passera du très classique à autre chose. On va entendre justement maintenant une partie que nous pourrons entendre à votre festival cette année, c'est le trio Sora qui joue d'un trio de Beethoven, le premier trio de Beethoven. Thank you. Alors, est-ce que maintenant qu'on vient de l'entendre, est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ?
Alors, ce que je voudrais déjà dire, c'est que toutes ces personnalités musicales qui ont la gentillesse de venir dans notre tout petit village de Saint-Nicolas-de-Véros, ce sont des gens que je connais, que j'ai entendus, que j'ai rencontrés. Ce sont des belles personnes. On ne peut pas, nous, accueillir là-haut, dans le village, des gens à grand renfort médiatique qui n'ont pas le sens de la rencontre et de la chaleur humaine avec tous les gens qui sont autour dans le village. Ces trois jeunes m'ont absolument époustouflée. Je les ai entendus donc en fin d'année l'année dernière. Elles sont merveilleuses. Elles ont 25-27 ans, donc elles sont toutes jeunes. Elles démarrent très fort. Elles sont vraiment en devenir et elles ont, ce qui me touche beaucoup, une passion incroyable. Et quand elles jouent, c'est un bonheur de les voir elles-mêmes partager ensemble les sons, les regards, les sourires, des fois de la force entre elles, de la rivalité, pourquoi pas. Elles viennent nous jouer deux trios de Beethoven, les deux plus beaux d'ailleurs. Je fais une parenthèse quand même, c'est que cette année, je pense que tous les auditeurs le savent, c'est quand même...
Oui, bien sûr.
Monsieur Beethoven est né il y a 250 ans et il était tout à fait logique et passionnant de mettre pas mal de Beethoven dans notre semaine musicale.
Je retiens sur ce que vous avez dit, l'intérêt évidemment de voir jouer les musiciens, mais voir et partager leur faciès, leur mimique, c'est vraiment très important, vous l'avez dit, pour ce trio Sora, et c'est parti toujours pareil pour les autres instrumentistes, bien sûr.
Oui, mais je pense que c'est la vie. Je dois vous avouer que aller au concert 4 fois par semaine à Paris et puis m'ennuyer, parce que je dois quand même avouer que c'est la plupart du temps comme ça, parce que je vois des gens qui ne vivent pas ce qu'ils font. Et je suis désolée, mais la musique, c'est un partage. Donc si on a en face de nous des gens qui sont heureux de jouer et qui ont des choses à nous donner, le public, il part avec.
Tout à fait. Alors maintenant, peut-être qu'on va revenir dans votre programme. On a vu qu'il y avait aussi des instruments et on va revenir à la voix. Parce que nous allons entendre Marion Rampal, qui va nous chanter d'une façon assez exceptionnelle aussi, Le secret de Forêt, mais arrangé à une sauce bien personnelle.
Je veux que le matin l'ignore, le nom que j'ai dit à la nuit, et qu'au vent de l'aube sans bruit, comme une larme, il s'évapore. Je veux que le jour le proclame, l'amour qu'au matin j'ai caché, et sur mon cœur ouvert, penché comme un grand dansant, il l'enflamme. Je veux que le couchant l'oublie, le secret que j'ai dit au jour, et l'emporte avec mon amour au pli de sa robe pâlie. Thank you. je veux que le couchant l'oublie, le secret que j'ai dit au jour, et l'emporte avec mon amour au pli de sa robe pâlie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient d'entendre ? Il y a des instruments avec elle ?
Alors, Marion Rambal est une fille complètement géniale qui a fait des études classiques et qui a bifurqué sur le jazz. Par rapport à ce que je viens justement de dire sur le ressenti du musicien sur scène, elle nous transporte complètement. Elle est dans des sonorités, des pianissimo de voix, c'est exceptionnel. Et elle a eu l'idée avec Pierre-François Blanchard, qui est un remarquable jeune pianiste de jazz, de faire ce projet. Elle part sur des mélodies classiques, Fauré, Debussy et
Schubert, je crois.
Schubert aussi. Ces deux-là bifurquent après sur des improvisations de jazz. Alors, ils ont déjà commencé tous les deux. Et puis maintenant, dans ce projet du secret, alors ils sont cinq. Ils ont trois invités, un accordéoniste absolument extraordinaire, qui est un monsieur qui a, je dois dire, de la bouteille, mais de la bouteille sur le plan professionnel, il est exceptionnel, monsieur Barbosa. Ensuite, il y a un clarinettiste saxophone qui est Thomas Savy, et un violoncelliste beaucoup plus jeune, Louis Rode, issu d'études classiques. Et ça, j'avoue que cette époque-là, elle est particulière parce que de mon temps, on faisait du classique ou on faisait du jazz. Et maintenant, on a enfin compris qu'il n'y avait qu'une seule musique. Il était intéressant de les mêler.
Je note aussi dans votre programme que vous mettez une grande place aux enfants.
Les enfants, c'est le devenir. Et je trouve que souvent, on les déprécie dans le sens où on fait des choses que j'appelle pour enfants. On est souvent dans une espèce de allez, j'ose le dire, de gâtisme.
Comme on fait avec les personnes âgées, d'ailleurs.
Vous avez raison. Un peu, oui,
bêtifié, la même
oui,
façon.
Tout à fait. Et donc, nous avons pour habitude, dans ce musée d'art sacré, il y a une exposition à thème tous les ans. Et nous avons maintenant décidé qu'avec la petite bibliothèque, qui est une toute petite maison dans ce petit village, mais il y a une belle bibliothèque, et en relation avec cette exposition qui a lieu cette année, nous prenons les enfants. Alors cette année, l'exposition, elle est sur Charlotte Perriand, qui est une architecte des années 30-50, qui a bien connu la région, qui a bien connu Megève, bien Saint-Nicolas de Véros également. Donc il y a une exposition sur cette personne. Donc les enfants, on m'a quand même dit, oh mais les enfants de 5 ans, une exposition d'architecture, non, ça ne marchera pas, etc. Mais moi, je suis désolée, j'ai des petits-enfants aussi, je peux les emmener dans les grandes expositions. En fait, il leur reste tellement de choses après qu'il faut oser y aller. Ils visitent, évidemment, on leur explique à leur niveau cette exposition. On fait ensuite un concours de dessin et nous avons trois architectes émérites qui sont soit en vacances, soit natifs du village, qui vont venir faire une distribution des prix pour ce dessin. On va leur demander « dessine la maison de tes rêves ». Ensuite, je les emmène à la répétition générale du concert des jeunes talents qui a lieu juste à côté à l'église. Il est important de ne pas offrir aux enfants des choses, disons, trop faciles.
Vous avez parlé des jeunes talents, alors qu'est-ce que c'est ça dans votre programme ?
Ce sont des jeunes qui ont fait des études dans les conservatoires d'instruments, qui ont fait les grandes écoles. Alors, il y en a un qui sort de Polytechnique et qui est docteur en mathématiques, il a 26 ans, et en même temps, il est pianiste quasiment professionnel. Il vient de jouer le concerto de Ravel pour la main gauche il n'y a pas longtemps. Un corniste pareil, qui est maintenant dans le monde informatique, après avoir fait des grandes écoles et les classes prépa les plus difficiles. Et puis, on a quand même, à côté de ces deux grands garçons, là, on a une jeune de 16 ans, une jeune bassoniste qui est exceptionnelle, que j'ai entendue en début d'année, avant le confinement. Elle a 16 ans, elle est étudiante au CNSM de Paris. Elle est remarquable musicalement. Alors, quand je dis remarquable, pour moi, c'est pas techniquement, c'est pas qu'elle nous fait des performances, c'est qu'elle fait une note et cette note, elle vous transporte. Elle a beau avoir 16 ans, c'est exceptionnel musicalement parlant. Pour les accompagner, ces trois jeunes qui vont faire donc des concertos, Haydn, Vivaldi et le quatrième concerto de Beethoven qui, pour piano et orchestre, qui est extraordinaire, nous avons l'orchestre Hélios, qui est aussi un orchestre parisien dont les jeunes sont tous issus des grands conservatoires.
Le mercredi des enfants, cela se fait en partenariat avec Saint-Gervais-Mont-Blanc.
Oui, parce qu'il s'agit, dans ce partenariat, il s'agit de faire on a un trio de femmes qui font partie d'une compagnie qui s'appelle Conte à cordes et qui font des contes pour enfants. Alors là aussi, c'est pas des contes qui bêtifient. Je précise tout de suite, ce sont des très beaux contes. Il y a donc une conteuse, une harpiste et une violoncelliste qui est remarquable. Elles vont faire un atelier conte où elles vont fabriquer un conte avec les enfants et le restituer après pour les parents. Et le soir, à 18h, au Théâtre Montjoie, elles font elles-mêmes, donc en tant que professionnelles, un conte qui s'intitule « Courgettes farcies » et qui est issu en fait des contes des Mille et une nuits. Et tout ça, j'insiste pour dire que c'est offert aux parents et aux enfants.
On va donc passer à un concert aussi qui va être vraiment très exceptionnel, dirigé par Chanidi Luca, qui est pianiste, et qui s'entoure de sitar et tabla, et ça on l'entendra aux rencontres de cette année, pour transformer, si on peut dire, ou du moins rajouter encore quelque chose à Beethoven. Vous allez entendre tout de suite une partie, un extrait, de ce qu'ils font. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils ont interprété?
Chanidi Luca est une pianiste qui fait une carrière absolument mondiale, qui joue partout dans les plus grandes salles. Et quand je l'avais, nous nous étions déjà rencontrés dans des jurys de concours et j'avais vraiment apprécié cette jeune femme. Et l'année dernière, elle m'a parlé d'un projet qu'elle avait de monter pour l'anniversaire de la naissance de Beethoven. Elle m'explique tout à fait tranquillement que Beethoven, en fait, on se rend compte qu'il a été très inspiré par des textes hindous pour composer un certain nombre de ses sonates. Et là, j'avoue que je suis un petit peu tombée des nues parce qu'en fait, c'est une part que je n'avais pas du tout jamais entendue.
Donc, ce n'est même pas artificiel son mélange. Ça vient vraiment
pas du tout.
D'une pensée profonde de Beethoven.
Oui, oui, absolument. Et donc, ce projet, elle l'a intitulé Cosmos. Elle veut associer toutes les cultures. Et donc, cette idée qu'elle a eue, donc elle s'est entourée de deux Indiens qui sont remarquables. Tabla et sitar, et elle a fait elle a fait
un mix extraordinaire.
Oui, et du coup, autour de ces deux sonates extraordinaires, qui sont Clair de Lune et La Passionata, qui sont les plus grandes sonates que l'on joue, elle a imaginé cette chose, et je l'ai entendue, en fait, elle l'a créée au Théâtre des Champs-Élysées, je crois que c'était juste avant le confinement, je crois que c'était fin février ou tout début mars, et j'étais au Théâtre des Champs-Élysées, et moi ça m'a complètement envoûtée, transportée, et ça m'a confirmé que j'avais eu bien raison de lui faire confiance, oui. Et l'année dernière de lui dire « je prends ce projet Cosmos ».
Écoutez, on a entendu quelques échantillons, c'est peut-être un mot, ça ne me déprécie pas dans mon idée, hein, mais des extraits. Des musiques que l'on pourra entendre cette année. Hein. Mais dans le courant de toutes ces rencontres, il y a d'autres interventions auxquelles vous avez fait un petit peu allusion tout à l'heure. Par exemple, il y aura une archetière.
Je ne sais pas si on le sait dans la région, mais on a une archetière qui est exceptionnelle et qui est connue quasiment dans le monde entier. Eh bien, elle habite Passy, tout simplement. Et je lui ai demandé de venir nous faire une conférence sur le métier d'archetière qu'elle fait remarquablement bien. Et j'ai trouvé que, voilà, tous ces métiers d'artisans de grande qualité, pour moi, c'est de l'art, vraiment.
Oui, mais surtout, ils contribuent aussi fortement à la musique.
Et donc, elle va gentiment venir nous raconter son métier.
D'accord. Alors, il y a aussi une masterclass.
Oui, ça c'est une masterclass que je vais moi gérer, on va dire. J'ai un trio, donc dont deux des jeunes talents qui joueront la veille. Dans les grandes écoles, ils se rassemblent en général tous pour garder contact musicalement. Il y a un orchestre qui a été créé, Plateau de Saclay, donc c'est toutes les grandes écoles. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et à l'intérieur de ces rencontres musicales, il y en a certains qui veulent garder, faire de la musique de chambre. Et là, non. Donc, nous aurons ce trio de Brahms, qui est monstrueusement difficile pour le piano, pour cor, violon et piano. Mmh. Et donc, ce sont ces trois étudiants qui vont jouer... comme ils ont envie, et en public, je vais, on va dire, les faire travailler, les guider, les coacher, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Très bien. Bon, alors vous avez parlé du concours de dessin, pour ne rien rater. Vous avez parlé de l'exposition d'architecture. Il y a aussi de la gastronomie dans votre programme. C'est pas
mal. Oui, alors dans ce petit village, nous avons un superbe hôtel qui vient d'ouvrir l'année dernière, qui s'appelle l'hôtel L'Armancette. Et j'ai eu l'idée avec eux de faire une soirée gastronomique dans leur restaurant, accompagnée de piano jazz de Nouvelle-Orléans, justement avec Marion Rampal et Pierre-François Blanchard. Donc nous avons cette soirée musicale et gastronomique, encore de l'art sur tous les plans.
Écoutez, on a entendu énormément de passion dans tout ça, d'intérêt.
Oui, vous savez, je ne sais rien faire sans passion, sinon je ne fais pas. Voilà, parce que, alors, effectivement, c'est un petit peu lourd pour tous les gens qui me suivent. Je dois reconnaître, et je les remercie là, vraiment, tous les bénévoles de Saint-Nicolas-de-Véros, qui supportent souvent des aléas un petit peu compliqués. Mais le miracle après a lieu, c'est-à-dire que aide-toi, le ciel t'aidera, on va dire ça comme ça. On avance et les choses se mettent en place. Et là, si vous voulez, l'image que j'avais quand j'ai voulu commencer ce festival il y a 12 ans, avec l'éthique que je voulais garder, nous y sommes arrivés, nous y arrivons. C'est lourd parfois, mais c'est tellement une belle aventure que je remercie tout le monde, y compris M. Jean-Marc Payex, notre maire, qui nous aide énormément pour tout ce qui est logistique, ainsi que l'Office du tourisme de Saint-Gervais.
Et cette année particulièrement, il faut quand même montrer et accuser, enfin mettre l'accent sur le courage particulier que vous avez eu à maintenir les rencontres.
Écoutez, ce n'est pas du courage, c'est une obstination, c'est une volonté. On va, on verra. Mais on va, vous savez, les règles, elles sont très, très claires. Nous avons le maire qui nous donne les directives. Nous avons la préfecture qui nous en donne aussi. Nous avons suffisamment de bénévoles pour arriver à gérer le flux, les choses correctes de sécurité.
Les masques, bien sûr.
Alors, les masques, évidemment, obligatoires. Tout sera mis en œuvre, y compris la distanciation. Bien sûr, on aura moins de monde, mais ce n'est pas grave. Ça ne nous empêchera pas d'en profiter. Je voulais préciser que tant que la préfecture ne nous demande pas de mettre des bouchons aux oreilles, nous ferons le festival.
Quand même, je pense. Bon, puisqu'on a commencé un tout petit peu les détails pratiques, je crois que vraiment, il faut qu'on passe à des précisions. On a parlé de beaucoup de choses avec passion et intérêt, je le répète. Maintenant, on va donner vraiment les détails très pratiques.
Alors, les dates, c'est donc du 3 au 7 août, donc du lundi au vendredi soir. Nous avons un site qui s'intitule 3w.musique-du-6-patrimoine-montblanc-mt-blanc. C'est-à-dire Montblanc abrégé.com.
Est-ce que vous pouvez répéter encore le site?
Alors,
simplement le site.
Musique, patrimoine, Montblanc. Et vous arriverez dessus. Nous avons la billetterie en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Vous pouvez venir au dernier moment, nous aurons de la billetterie sur place. Le téléphone pour les renseignements, c'est le 06 84 26 13 63. Pour venir, comment fait-on à partir d'Annecy? A40, autoroute A40, sortie 21, direction Saint-Gervais-les-Contamines. À partir de Saint-Gervais, vous montez sur le petit village de Saint-Nicolas-de-Véros. Et si, pourquoi pas, venir 2 jours, 3 jours, il y a des hôtels pas très chers à Saint-Gervais et des chambres d'hôtes. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour passer 2-3 jours agréables.
Vous pouvez nous dire aussi les divers lieux dans lesquels ces concerts que nous avons annoncés se font.
Alors, les lieux, c'est principalement l'église. Tous les concerts ont lieu dans l'église de Saint-Nicolas-de-Véros.
Donc, très c'est belle église, baroque.
Très belle église, absolument. Ensuite, en extérieur, nous avons cette randonnée et nous partons du village et nous allons à pied en refuge au-dessus du village.
D'accord.
Le refuge de Porcheret.
Et ce qui se passe avec les enfants, ça se passe où?
Ça se passe dans le village.
Dans le village.
Uniquement dans le village.
D'accord. Donc les lieux ne sont pas très disséminés, sauf la randonnée, évidemment,
voilà,
par essence.
Et le partenariat pour les comptes, c'est à Saint-Gervais.
À Saint-Gervais, voilà. Oui, c'est ça. Il y a quand même le lieu de Saint-Gervais.
Voilà.
Mais écoutez, j'espère qu'on a suscité des passions pour ces rencontres. En tout cas, si même cette année, vous n'arrivez pas à vous décider rapidement, il y aura encore des suites, je pense, encore des années.
Oui, nous avons les dates qui sont toujours fixes. C'est toujours la première semaine d'août. Donc, voilà, que tout le monde le sache. Et pour une programmation toujours extrêmement différente. Parce que je voulais aussi insister que si c'était pour faire un festival, on va dire lambda, un petit peu comme souvent partout, avec les mêmes programmes qu'on entend partout, moi j'avais envie vraiment de décoiffer un petit peu, si vous voulez, la notion de rencontre, de festival, que ce soit varié, riche et chaleureux. Voilà.
Voilà, ben, je crois que c'est passé. Vous nous avez fait passer quelque chose.
Eh bien, tant mieux.
Je vous remercie énormément d'être venu. Je vous rappelle donc, c'est Madame Nicole Simon-Laroche que vous venez d'entendre. Et merci beaucoup, beaucoup d'être venu.
Merci, Micheline.
À bientôt. jeu de sons. Un son. Des sons. Mais quels sons ?
Cette émission vous est proposée par Micheline Planès.